Nous avons lu tout à l'heure le récit de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Comme l'a dit Jeff, récit de circonstances aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux. Eh bien, je vous propose de poursuivre le récit de ce qui se passe par la suite dans l'évangile de Luc au chapitre 19, à partir du verset 41. Quand il fut arrivé tout près de la ville, Jésus l'embrassa du regard et pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. Quel contraste ! Verset 37, on l'a dit, on l'a lu, une foule qui loue Dieu dans un élan de joie. Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Verset 41, Jésus regarde Jérusalem et dit et pleure sur elle. Ah, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. Il paraît que le silence qui suit une œuvre de Mozart est encore du Mozart. C'est ce qu'on dit, en tout cas les amateurs de Mozart. Eh bien, il me semble plus sûrement que le silence qui suit une parole de Jésus est encore une parole de Dieu. Comment ne pas être interpellé par ces paroles de Jésus ? Par ces contrastes. À ce moment-là, Jésus n'est plus dans l'enseignement, dans l'action, dans la protection ou dans la guérison. À ce moment-là, sa mission n'est plus d'intervenir, mais de constater l'échec et de communiquer le jugement de Dieu. Puisqu'Israël n'a pas voulu reconnaître le projet de Dieu à son égard, ses ennemis vont sévir inexorablement. Le maître le dit dans un profond regret. Ah, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Quel paradoxe! Juste après que la foule l'ait accueilli sur des « Vive le roi !» Quel paradoxe que ce récit de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, sous des cris de joie sincères dans leur cœur de la foule, foule qui, quelque temps plus tard, Jeff l'a dit, criera « Crucifie-le !» Paradoxe. Avec ce dimanche des Rameaux, nous entrons dans cette semaine qui va nous conduire à la célébration du Vendredi Saint, puis au dimanche de Pâques. Dans cette semaine, nous allons certainement lire dans la Bible, peut-être découvrir les récits des événements qui ont eu lieu à Jérusalem entre l'entrée de Jésus dans la ville et la crucifixion et sa résurrection. Un temps intense, dense, avec des contrastes saisissants, des paradoxes dérangeants. Je vous propose de nous arrêter ensemble ce matin sur un de ces moments qui nous ramènera peut-être à ce contraste du récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous lisons l'arrestation de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 22 à partir du verset 47. À ce moment-là, Jésus est sur le mont des Oliviers avec ses disciples pour prier. Auparavant, ils avaient partagé la scène et il y avait eu un dernier entretien avec ses disciples, discussion au cours de laquelle Jésus avait annoncé la trahison par l'un d'eux et le reniement de Pierre. Désormais, Jésus et ses disciples sont sur le mont des Oliviers. Jésus a prié, conscient de ce qui allait lui arriver, il s'est confié au Père Céleste pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Lisons ce texte, ce passage dans Luc 22, 47 à 53. Excusez-moi, c'est moi qui m'a... Je ne suis pas trompé, je me suis trompé d'œil. Il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe surgit. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des douze. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » En voyant ce qui allait se passer, les compagnons de Jésus lui demandèrent, « Maître, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et immédiatement, l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus les retint en disant, « Laissez faire, même ceci. » Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Il se tourna ensuite vers les chefs des prêtres, les chefs des gardes du temple et les responsables du peuple qui avaient accompagné cette troupe pour le prendre. « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venu avec épée et gourdin ? J'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. » Avec une approche de journaliste, nous pourrions relever ces instants dramatiques, l'aspect sensationnel de cette arrestation par une troupe armée conduite par les autorités religieuses et du peuple, des gardes du temple armés pour arrêter un homme de paix. Premier paradoxe. Nous pourrions mettre en évidence cette tension où la violence est latente et va éclater avec une question posée, puis, sans attendre la réponse, un geste de défense et une oreille blessée. Puis, paradoxe, face à cette troupe armée, l'homme qui va être arrêté guérit la blessure survenue suite à ce geste qui s'avère déplacé. Ne pas répondre à la violence par la violence, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse, sujet d'une prière précédemment présentée. On pourrait encore parler de cette opposition, encore une fois, entre Jésus, homme de paix, fils de Dieu, et ces religieux qui cherchent à le faire mourir comme un bandit, alors qu'ils avaient beaucoup partagé de temps auparavant, notamment au temple. Paradoxe. Mais je ne suis pas journaliste. Alors, je m'arrête juste sur ce geste qui m'interpelle. Qui m'interpelle peut-être parce qu'il me renvoie à une part de ce que je peux être. Verset 47. Il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe surgit. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser, mais Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Nous voilà face à ce geste dérangeant. Comment Judas, l'un des 12, a-t-il été amené à trahir Jésus, le maître qui l'a suivi? Un jour, auparavant, il avait répondu à son appel, à l'appel de Jésus à le suivre. Il a entendu ses enseignements. Il a vu ses interventions. Il a marché avec lui. Comment peut-on en arriver là? De ce que l'on peut savoir, et je vais rester prudent, Judas était ce disciple chargé des finances. Un paradoxe certainement de plus quand Jean le présente comme un voleur et un avare. Si on se réfère au récit dans l'évangile de Jean, chapitre 12 et verset 6, Jésus est à ce moment-là à Béthanie, chez Lazare, et au cours du repas, Marie va verser sur les pieds de Jésus un parfum de très grand prix. Et ensuite, elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et nous lisons au verset 4, Judas Iscariot, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. » Et Jean ajoute au verset 6, « S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur, et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. » Voilà, voilà. De plus, tout comme les autres disciples, Jésus attendait un Messie, puissant et glorieux, qui, chassant les Romains, restaurerait la splendeur d'Israël. Comptait-il alors, en suivant Jésus, retirer lui-même un honneur à cette occasion-là? Ambition perdue avec des illusions déçues? Jésus parlait de notre royaume. Voulait-il, au contraire, hâter la délivrance du peuple d'Israël en incitant alors Jésus à intervenir au moment de son arrestation? Combien d'hypothèses pourrions-nous développer sans certitude? Sauf une indication de taille, à mon sens, que nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 3. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchent un moyen de supprimer Jésus. Mais ils ont aussi peur de la réaction de la foule. Et nous lisons dans Luc 22, verset 3, « C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariot, l'un des 12. » Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers des gardes du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tous réjouis et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta Et dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Voilà pourquoi, me semble-t-il, Judas va trahir Jésus, son maître. C'est l'œuvre du tentateur. Alors, me viennent ces questions. Judas n'avait-il pas le choix? Ou bien même, était-il prédestiné à cela pour l'accomplissement du peuple, du plan de Dieu? Je ne le crois pas, c'est mon avis. Face à la tentation, nous sommes placés devant ce choix, résister ou succomber. Tout comme face à Jésus, nous sommes placés devant ce choix. Faire confiance ou pas. S'ouvrir ou refuser. Si Judas avait refusé, Satan aurait sans doute trouvé un autre moyen. Simple hypothèse. Toujours est-il qu'il est bien dangereux d'être moraliste. Toujours est-il que Dieu utilise les personnes et les événements, positifs ou non, pour que son plan se réalise envers et contre tout. Et le plan de Dieu, depuis la chute d'Adam et Ève, est de restaurer la relation entre les êtres humains et lui, pour renouer cette relation initiale. Judas était-il conscient de trahir Jésus comme Jésus lui relève au verset 48? L'évangéliste Matthieu, cette fois-ci, nous rapporte au chapitre 27, versets 3 et 5, que quand Judas a appris la condamnation de Jésus, il a été pris de remords. Il est allé voir les responsables religieux et a reconnu l'innocence de Jésus devant eux. Trop tard. Judas a été renvoyé à lui-même. Seul, culpabilisant, prenant certainement conscience d'avoir été manipulé, prenant conscience de ce qu'il avait commis, il est allé se pendre. J'ai en mémoire, dans cet événement, les images sombres de la BD de Peter Madsen, Jésus de Nazareth. BD qui avait été exposée au temple il y a 2 ans, peut-être vous en souvenez. Ce passage est tragique, interpellant au plus profond. Alors Judas, coupable? Non coupable? Il est d'autant plus difficile de répondre que ce baiser me renvoie à mon comportement, à ce que je peux être. Tout comme Pierre, qui l'a renié, Judas a marché auprès de Jésus, l'a suivi, certainement sans tout comprendre. Tout comme moi, je désire le suivre sans doute tout comprendre. Tout comme Pierre et les autres disciples, Judas avait ses motivations et certainement reconnaissait Jésus comme maître. Et moi? Et toi? Notre vie, notre comportement n'est-il pas également fait de paradoxes? Nous avons certainement confié notre vie au Seigneur, le reconnaissant le maître de nos vies, reconnaissant son amour pour nous, désirant le servir et lui faire honneur, l'adorer, et je crois nous sommes sincères. Mais par ailleurs, ne sommes-nous pas reconnaissants, Ne sommes-nous pas également placés devant des contradictions, des attentes, des réactions, des compromis, pas forcément à la gloire de Dieu? Tout comme la foule qui crie une louange lors de l'entrée de Jésus dans la ville va crier ensuite à sa mort. Quelles sont nos contradictions? Il y a quelque temps, ici, à cette place, un prédicateur soulignait l'importance de l'humilité et de la dépendance du chrétien. Nous en avons ici une illustration frappante. Face à nos compromis et autres infidélités, faiblesses, nous ne pouvons que reconnaître humblement notre besoin de pardon, reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu et faire appel à sa bonté. Lui qui nous aime et nous désire vivants en communion avec lui. Nous avons besoin de sa grâce. Cette grâce, pure bonté du Dieu souverain, plus fort et puissant qu'une décision de grâce présidentielle, l'acte de grâce que Jésus-Christ manifeste, réalise à la croix en prenant sur lui la condamnation liée à nos fautes, cette grâce nous rétablit dans la justice de Dieu et nous donne accès au royaume de Dieu dans une vie nouvelle. Acte de compassion, de justice et de bonté, témoignant de l'amour du Dieu saint. Cette grâce est accessible à chacun. Le sais-tu? Nous avons besoin de nous appuyer sur les promesses de Dieu pour marcher à sa suite. Promesses présentées dans la Bible parce qu'il s'agit du plan de Dieu, tracé dans sa parole. Promesses d'un pays promis, promesses du royaume de Dieu, accessible. Promesses de vie en communion avec Dieu, dans une relation d'amour et de respect du Dieu souverain, juste et bon. Cette alliance de Dieu, ses promesses, s'adressent à chacun. Le sais-tu? Nous avons aussi besoin, pour vivre cette relation au quotidien, d'un renfort, d'un guide promis à tous, donné à tous ceux qui le demandent et qui obéissent à Dieu. Le Saint-Esprit, émanation de Dieu, nous enseigne, nous console, nous conduit, nous entend et nous parle dans cette relation personnelle et communautaire. Et nous avons besoin au final de cette relation de dépendance, d'amour, dans le respect de Dieu. Le don de la présence du Saint-Esprit pour cette relation est offert à chacun lorsqu'on le désire. Le sais-tu? Cette grâce, ces promesses, cette relation animée au quotidien, tout cela est possible grâce à Jésus-Christ, à son œuvre de pardon et de réconciliation à la croix. Mais la croix n'est pas l'aboutissement de l'histoire. La vie, la résurrection de Jésus le matin de Pâques est plus forte que la mort et ouvre sur la vie éternelle en communion avec Dieu. Ce salut, ce plan de vie me renvoie alors à ces paroles de Jésus quand il regarde avec tristesse Jérusalem. Ah, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Tes jours de malheur vont fondre sur toi. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. À ce moment-là, Jésus fait ce constat avec regret. Mais en accomplissant la volonté du Père, il ouvre la possibilité à chacun, à toi, à moi, de revenir auprès de Dieu en le reconnaissant comme source de vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que quiconque, toi, moi, croit en lui, ne périsse pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Dans tous nos paradoxes, nous pouvons reconnaître que Jésus-Christ est venu pour nous montrer l'amour de Dieu, pour chacun, pour rétablir cette relation brisée avec le Père céleste et nous offrir la vie éternelle en communion avec Dieu. Parce qu'il s'agit du plan de Dieu. Alors, en ce dimanche des rameaux, face à ce chemin ouvert, accessible, nous pouvons crier avec la foule, « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Que le Saint-Esprit nous accompagne et nous guide pour que nous puissions reconnaître le moment où Dieu est venu pour nous.